paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir, le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiphaine, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde, et avec moi ce soir au poste de manœuvre, Nanette, Quentin et Pierre-Antoine. Ce soir, au sommaire du sous-marin, nous recevons Nolwenn et Nathanaël de l'association Genepi. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans une deuxième partie, nous entendrons Élodie Merlin, responsable de la Ligue de l'enseignement à la Maison d'arrêt d'Angers. À 19h30, dans sa chronique géopolitique, Quentin, tu feras un point sur la situation en Centrafrique.
Loin au sud.
Vers 19h45, Pierre-Antoine reviendra sur la marche antiraciste de samedi dernier, 30 ans après ce que l'on a appelé la marche des beurs. Et comme chaque jour en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de cette soirée et la bulle sonore. Mais avant toute chose, comme chaque mardi, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse juste froid, Nanette, bonsoir.
Bonsoir Tiphaine.
Tu lances les hostilités avec ton torpillage. Ce soir, bam, c'est Philippe Lothiou qui s'en prend plein les dents.
Oui, j'ai trouvé l'info insolite du jour. Prépare-nous à blinder le sous-marin, ça va faire mal. On dit d'abord merci à Marion Maréchal-Le Pen, c'est elle qui nous a trouvé cette perle. C'est le candidat FN, tête de liste à la mairie d'Avignon, j'ai nommé Philippe Lothiou. Alors Philippe, il est entré en scène samedi. Il s'est présenté comme ça aux journalistes. Bonsoir Philippe Lothiou, 47 ans. Oui, je sais, je ne l'ai fait pas. En plus, il a de l'humour, sauf que c'était pas drôle du tout, parce qu'il les fait vraiment, ses 47 ans. Mais dans son élan d'amour propre démesuré, il continue. Mais surtout, j'ai fait sciences politiques, j'ai fait ensuite de la sociologie, et puis l'ENA, bravo Philippe, il fallait bien équilibrer avec son humour gargantuesque. Mais alors, qui dit sciences politiques? Est-ce que nous, on dit bien Bienvenue sur Radiophonie Campus, vraiment. Non. Alors, on se demande tous où le FN est-il allé chercher Philippe. Écoutez, c'est magnifique. Philippe vient de Levallois-Perret, oui, donc c'est près de Paris, pour se situer complètement à l'autre bout d'Avignon. En politique, normalement, c'est ce qu'on appelle un parachutage. Et là, il est particulièrement violent. À mon avis, le FN se l'est joué, devient maire en t'amusant, genre grosse loterie, et hop, on pioche une ville au hasard. Non, mais c'est génial, ça met de l'ambiance, on les embrasse. En tout cas, sans complexe, Philippe, il explique qu'il va faire pas mal d'allers-retours. Et enfin, quand on lui demande si tout de même il connaît Avignon, son éventuelle future ville, il nous dit « Avignon, je ne connais pas plus que d'autres, je suis déjà venu une fois au festival ». D'accord, en gros, Philippe, il connaît juste le festival et la cantine sur le pont d'Avignon et il se présente aux élections municipales. Moi, il m'épate. Et il continue en plus, je vais découvrir cette ville et il ne se lasse pas, je ne veux pas de vieilles recettes dans de vieilles marmites. Non, je vous en supplie, ne cherchons pas à comprendre la métaphore. Je ne dis pas que je vais raser gratis, c'est impossible. Ah bon, on croyait. Et il nous dit encore, Avignon, c'est la capitale des vins, elle a la beauté, le patrimoine et encore l'histoire. Je veux contribuer à ce que les gens y soient heureux. Youhou, bienvenue au pays des Télétobies, votez Phil où il distribue du bonheur et du vin aux gens. Donc Philippe, il prend vraiment ses vacances en terre inconnue, dans un beau pays, avec de l'alcool et des gens heureux. C'est génial, la politique, moi j'adore. Et Philippe, il est content de lui. Il nous dit, je crois même que le fait d'arriver comme ça, ça va me permettre d'arriver sans idée toute faite. D'accord, donc ça devient carrément un argument de campagne. Waouh, on adore y croire. Et enfin, Philippe, il a un hobby. Figurez-vous que Philippe, il est humoriste à ses heures perdues. Oui, je vous assure, il se produit en spectacle. C'est le genre des mecs qui, en plus, a un répertoire de dingue au niveau blague pas drôle. Je vous en donne quelques-unes. La loi sur le mariage gay, vous savez, c'est toujours mieux qu'un mariage triste. Et d'ailleurs, évitez les pères écologistes. Vous imaginez un enfant avec deux pervers? Non, je vous en supplie, vraiment, il faut l'aider. C'est le genre de blague suivie d'un gros blanc, genre je voudrais disparaître 6 pieds sous terre, ça va pas du tout. En tout cas, si vous voulez aller le voir, Philippe, il a produit sur scène en one-man show. Il se produit sur scène, oui, en one-man show. Et l'année dernière, c'était Il s'écharpe. En gros, pour vous donner une idée, sur la couverture, on voit Philippe dans une espèce d'hystérie incontrôlée, en train de se battre avec une écharpe tricolore. C'est vraiment très étrange. Parce que, en fait, on voit qu'il a envie de faire rire, mais c'est pas drôle du tout. Et cette année, si vous voulez aller voir, ça s'appelle Les Fabuleuses Aventures de Patmol Ier. Non, mais qui peut m'expliquer d'où vient ce nom Patmol? Youhou, remarquez, ça colle avec le nom de Télétobies de Philippe. C'est vraiment fabuleux.
Merci Nanette, toujours en forme le mardi soir. Et avant de retrouver nos invités, on écoute un morceau, The Not Twist, Close to the Glass.
Thank you.
La semaine dernière était la semaine des prisons. À cette occasion, différentes actions étaient menées à Angers, comme par exemple une projection débat aux 400 coups ou un bus de la liberté réquisitionné par les avocats. Mais on ne fait pas une semaine des prisons sans le GENEPI, le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. L'association regroupe des étudiants bénévoles qui interviennent en prison et dans les structures de la protection judiciaire de la jeunesse. Le GENEPI a un double rôle, celui de transmettre l'enseignement en prison et celui d'informer sur la situation carcérale. Pour parler du GENEPI avec moi ce soir, deux bénévoles, Nolwenn et Nathanaël. Bonsoir et merci d'être dans le sous-marin.
Bonsoir.
Nolwenn qui vient d'arriver au studio essoufflée.
J'ai couru, mais c'est bon.
Merci en tout cas d'être là. Alors première question pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter un peu plus le GENEPI ?
D'accord, tu me laisses.
D'accord. Je reprends mon souffle en fait.
Donc le but premier du GENEPI, donc une association étudiante nationale, c'est le décloisonnement des prisons. Donc ça en rien, on va pas du tout, comment dire. Le but c'est pas de libérer des détenus ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est vraiment d'ouvrir la prison à la société et que la société elle-même aussi s'intéresse. À ce qui se passe en prison, aux conditions de vie dans la prison.
Donc concrètement, vos rôles respectifs au sein de l'association Angers, c'est quoi ?
Alors nous, on a le poste de RDG, donc c'est responsable de groupe. Donc on a différents postes, on a trésorier, on a président, on a secrétaire. Donc moi spécifiquement, je m'occupe de la radio à Angers, vu qu'on a une émission de radio sur
Radio G, donc c'est messager.
Donc, voilà, et je m'en occupe depuis 4 ans.
Premier dimanche de chaque mois.
C'est ça, de 16h à 17h. Et bah, du coup, Nata, je te laisse dire... ton poste ?
Donc moi, mon poste, c'est responsable de groupe dans les interventions milieu scolaire, information et sensibilisation auprès du public. Voilà, un poste que je partage aussi avec Léonie Bito, qui s'occupe plus de l'événementiel, donc tout ce qui est ciné-fictif, ciné-débat, etc.
Voilà. Les bénévoles au GENEPI, ils ont quel profil ? C'est des étudiants qui viennent de quelle formation générale ?
En fait, c'est forcément des étudiants. Pour entrer au GENEPI, il faut être étudiant. Après, il y a vraiment des étudiants qui viennent de toutes les facs, mais on a majoritairement des gens de psycho et des gens de droit. Après, cette année, on a quand même un peu plus de profils différents. On a quelqu'un qui est dans les études en optique. Enfin, on a vraiment... Mais c'est vrai que majoritairement, on a psycho et droit. Mais...
Alors, au sein de la maison d'arrêt d'Angers, quelle action vous menez particulièrement ?
Donc, on a une action qui se décompose en deux, on a des ateliers, on a des cours où là on est en fait on assiste des profs d'éducation nationale, mais on monte des ateliers avec trois bénévoles qui interviennent dans un cadre où il y a vraiment un échange entre les détenus, un échange c'est-à-dire pédagogique. Donc on a plusieurs matières, que ce soit l'anglais, que ce soit un regard sur le fait de société, que ce soit FLE, donc français langue étrangère. Et on est vraiment là dans un cadre d'échange, c'est-à-dire qu'on leur apprend aussi, mais ils nous apprennent, et c'est surtout qu'il y ait une pédagogie voilà, qui est très efficace.
Et alors, ça se passe auprès de tous les détenus ou tout le monde n'y participe pas?
Donc, il y a un tri qui est opéré par l'administration pénitentiaire. Et voilà, un tri, bon, c'est un grand mot, mais dans le sens que c'est eux qui font la demande de venir dans ces ateliers ou ces cours. Et après, on reçoit leur demande et on voit si c'est possible, compte tenu de tous les éléments extérieurs. Voilà. Donc, nous, on n'intervient en rien dans ce cas-là. C'est pas nous qui opérons ce tri. Il est opéré par l'administration pénitentiaire, comme je le disais. Et voilà, on est face à ces personnes, voilà, qui sont des personnes avant tout.
Alors, l'idée du Génépi, c'est d'aider à la réinsertion, à la sortie aussi de la maison d'arrêt. Vous avez des retours des détenus qui ont bénéficié des actions du Génépi?
Alors ça, non.
En fait, on n'intervient pas vraiment dans la réinsertion, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le décloisonnement des prisons, mais dans l'information. Donc on est des témoins de ce qui se passe en prison, et on témoigne à l'extérieur, mais on n'a pas un suivi, si vous voulez, des détenus quand ils sortent. On laisse ça à d'autres associations. Il y a déjà pas mal d'associations pour cela. Donc.
Mais j'imagine qu'à l'intérieur de la maison d'arrêt, vous avez des retours des détenus qui vous disent ce que ça leur apporte. Enfin...
Oui, d'accord. C'est exactement ça aussi le but, c'est qu'il y a des personnes de l'extérieur qui viennent et qui ont un contact avec eux, qui montrent qu'il y a des personnes de l'extérieur qui sont intéressées à ce qui se passe à l'intérieur des lieux de privation de liberté. Donc c'est un contact plutôt... c'est un profil relationnel, on va dire, si on peut dire ça.
Il y a une action que vous avez menée la semaine dernière, mais qu'on vous voit souvent, Génépi, sur les places d'Angers pour montrer ce que c'est une cellule, en fait, une cellule de la maison d'arrêt. Alors, à quoi ça ressemble une cellule de la maison d'arrêt?
Alors, une cellule en moyenne, ça fait 9 mètres carrés. On a un lit superposé. Généralement, en détention, c'est un lit superposé. On a un espace avec un évier. Et un autre avec des toilettes, donc sachant que les toilettes sont pas séparées du reste de la cellule, donc soit peut-être par un petit muret ou alors totalement ouvertes sur la cellule. Il y a, qu'est-ce que tu peux
Ils sont combien par cellule les détenus?
Alors deux, voire trois, à peu près. C'est-à-dire que le troisième peut dormir avec un matelas posé entre l'espace, entre le mur et le lit superposé, mais en moyenne c'est deux.
C'est le bus des avocats qui a circulé la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, Génépi, qui circulait dans Angers avec des photos des cellules, en fait, pour montrer aux Angevins à quoi ressemblait leur maison d'arrêt. Et donc, le but, c'était quand même de dénoncer cette surpopulation. Est-ce que c'est le cas particulièrement à Angers par rapport à la population carcérale en France?
Alors, sur Angers...
Disons que la maison d'arrêt d'Angers n'échappe pas non plus à la surpopulation, surtout que c'est une maison d'arrêt. Donc, rappelons-le, une maison d'arrêt se différencie du centre de détention par les peines d'emprisonnement, en fait, puisque ce sont soit des personnes qui sont en instance de jugement, c'est-à-dire qu'ils attendent leur condamnation pour alors être transférés dans des centres de détention ou autres, et des personnes qui ont eu une peine inférieure ou égale à 2 ans. Donc, c'est surtout dans ce cadre-là, c'est surtout dans les maisons d'arrêt qu'il y a une surpopulation. Et à Angers, voilà, je ne peux pas vous donner des chiffres exacts. Il y a 245 places, et à mon avis, il y a bien plus de 300 détenus qui y sont. Donc, il y a quand même une surpopulation, même si là, elle est en travaux, donc il y a eu des transferts, etc. Voilà, elle n'échappe pas non plus à cette surpopulation.
Justement, la maison d'arrêt, elle date de 1856, hein, c'est bien
exactement.
Ça. Il y avait en 2010 un appel à projet pour en construire une autre à Trélazé. On ne sait pas où ça en est aujourd'hui. Madame Christiane Taubira, la garde des Sceaux, est venue à Angers il y a un mois et elle a parlé de rénovation de l'actuelle maison d'arrêt. Est-ce que vous suivez le dossier? Est-ce que vous savez où ça en est?
Alors, est-ce qu'on suit le dossier?
On essaye avec le peu d'informations qu'on peut avoir, mais je sais qu'à l'heure actuelle, on n'a pas plus d'informations que ça, en fait. Enfin...
Se pose la question, en fait, de est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un projet de construire une prison, une nouvelle prison, donc à Trélazé, ou alors est-ce que c'est mieux d'avoir cette rénovation au sein même de la maison d'arrêt qui est d'Angers, qui est assez vétuste, puisque en fait, les élus, voilà, qui sont plus pour une rénovation, et voilà, Christiane Taubira a parlé
De rénovation.
Oui, à parler de rénovation, mais elle a surtout parlé de dire que on n'est pas là pour faire plaisir aux élus.
Oui.
Et c'est à voir au mieux, finalement. Au mieux par rapport aux détenus, par rapport à leurs conditions. et de vie, bien sûr. Donc on verra où ça en est.
La semaine des prisons, la thématique de la semaine des prisons la semaine dernière, c'était la santé en prison. Mmh. Est-ce que vous avez des chiffres à apporter sur cette question-là? On en parlait oui. Hors micro, Nathanaël.
Oui. Alors, par rapport à la santé, donc faut savoir qu'il y a 5 fois plus de suicides dans les lieux de privation de liberté. Donc, on commence un peu choc. Ouais, 5 à 7, mais... Ouais.
Ça varie en fonction des établissements, mais c'est
exactement.
5 à 7.
Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que le... Voilà, il y a aussi une grave présence de sida, aussi pareil, qui est voire 5 à 7 fois plus que la moyenne, enfin qu'à l'extérieur.
Après, je sais pas, on peut peut-être parler au niveau santé, les problèmes de toxicomanie en détention. Exactement. C'est quelque chose d'assez important. Il y a à peu près 80% des personnes qui fument en détention, sachant que c'est pas que de la cigarette. Il y a aussi des consommations de drogue qu'on arrive bizarrement facilement à se procurer en détention. Donc, et d'alcool. Après, c'est des choses qui, au niveau, en fait, en détention, c'est de manière exponentielle comparée au monde, enfin, à l'extérieur, en fait. Donc, c'est tout est, en termes de chiffres, tout est disproportionné, en fait.
Nathanaël, tout à l'heure, vous disiez que vous interveniez dans les écoles aussi pour sensibiliser à cette question-là. Quel retour vous avez de la part des élèves quand vous leur parlez de la maison d'arrêt ?
Je vous avoue que c'est assez marrant parce qu'on a un peu de tout. Et ça représente un peu ce que la société peut se faire comme idée des lieux de privation de liberté. Donc on a un peu de c'est de leur faute, ils ont bien mérité. Ou alors, oui, mais c'est nous qui payons, c'est scandaleux ce qui se passe. Voilà. Donc ce que moi je vois au travers de ce travail qu'on peut opérer au sein de l'éducation nationale, c'est vraiment de pouvoir abattre les tabous, abattre aussi les préjugés. Il y a beaucoup de préjugés et de vraiment pouvoir refixer le cadre de remettre la vérité à sa place, quoi, tout simplement, de ce qui se passe vraiment au sein même des lieux de privation de liberté et pas de ce qui se passe vraiment dans les séries américaines, etc. Et j'en passe.
Mais ça, vous disiez dans les écoles, et en fait, ça reflète la vision de la société. C'est les mêmes réactions quand vous installez sur une place avec une cellule de 9 mètres carrés.
On les retrouve, oui. On les retrouve. Après, je pense que c'est aussi le fait que c'est aussi une zone d'ombre, en fait, ces cellules de privation de liberté. Et justement, notre but, c'est d'éclairer cette zone d'ombre, de véritablement pouvoir poser des mots, pouvoir poser des faits, des statistiques aussi, voilà, de montrer véritablement ce qui s'y passe afin que les gens ne soient plus dans le flou et soient vraiment éclairés pour en parler et pour en débattre, tout simplement. C'est important qu'on en parle.
Tout à l'heure, on entendra Elodie Merlin qui fait partie de la Ligue de l'enseignement au sein de la maison d'arrêt d'Angers et qui amène des événements culturels. Vous travaillez aussi avec elle et avec la Ligue de l'enseignement?
Avec cette personne-là, non. Et dans la ligne de l'enseignement, pas véritablement non plus.
Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement d'être au sein du Génépi?
Alors ça, c'est toujours la question qu'on nous pose, mais après, moi, j'ai un peu de mal à répondre à cette question-là. Ce que ça m'apporte... J'ai vraiment découvert pas mal de choses sur moi, on va dire sur les autres, même sur le milieu associatif en général. Parce qu'à la base, c'est pour ça que j'ai intégré le Génépi, pour découvrir ce que c'est qu'une asso. Et que ce soit dans la relation avec les détenus ou avec les bénévoles ou dans nos week-ends de formation où on est amené aussi à rencontrer des intervenants, je trouve que c'est une association qui est très complète et vraiment où on s'amuse mais en même temps on est sérieux. Enfin, il y a vraiment, pour moi, il y a tout ce qu'il faut dans cette asso, en fait. Voilà, c'est ça.
Mais ça a changé votre vision du monde carcéral?
Totalement.
Ah oui, totalement aussi. Totalement.
Vous aviez des préjugés comme...
Moi, au tout début, c'était pareil. Je me suis dit, oh là là, mais mon Dieu, je vais me retrouver face à des détenus. Je vais pas être à l'aise, je vais pas me sentir bien. Et au final, on débarque au premier cours et on se dit, pourquoi j'ai pensé ça, quoi. Enfin, c'est des gens tout à fait normaux, qui nous apprennent des choses. Nous, on est là aussi pour les aider s'ils en ont besoin. Et enfin, au final, quand on arrête d'intervenir, on se dit, mince, ça me manque, quoi. Enfin, donc, ouais.
Si les auditeurs veulent devenir bénévoles au Génépi, est-ce qu'il y a des conditions à remplir en termes de temps, en termes de...
Alors, faut être motivé, ouais. Et être étudiant et avoir bien sûr du temps à consacrer pour les interventions, que ce soit à la maison d'arrêt d'Angers, mais aussi pour les événements extérieurs. Donc voilà. Mais après, pour le contact, je vous invite à écrire à groupe.angers@genepi.fr et on saura vous répondre sans problème.
On mettra l'adresse sur le site de la radio.
Et on a un Facebook aussi. Facebook Génépi Angers, si vous voulez avoir plus d'infos.
Il y a des actions prévues prochainement dans la rue pour sensibiliser les gens à la question, ou alors vous avez tout donné la semaine dernière?
Prochainement, non. Mais après, je pense qu'on peut peut-être parler juste du WERF, où on a posé la date. Donc, on organise un week-end qui se passera sur Angers. On n'a pas encore le lieu précisément parce que c'est un peu compliqué. Mais... Et donc, du coup, ce sera ouvert au public le samedi 1er mars et ce sera sur le thème de la réinsertion.
Alors, c'est où ? Enfin,
Alors, ce sera sur Angers, mais on a encore le problème de locaux.
C'est en projet, en fait.
Donc, c'est en projet parce qu'il faut trouver pas mal de choses. Mais du coup, ce sera sur Angers, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler.
On en reparlera, on vous réinvitera. Merci beaucoup, Nolwenn et Nathaniel, d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on s'écoute un petit peu de musique. Belle Anne Sébastien, I'm a Coucou. Bien installé dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, c'est l'heure de scruter les horizons avec la chronique géopolitique de Quentin. Quentin, décidément, Hollande a l'esprit guerrier. Après le Mali, la France lance une opération militaire en Centrafrique.
Ce week-end, 200 nouveaux soldats français sont arrivés en Centrafrique, venant s'ajouter aux renforts matériels envoyés la semaine dernière et aux forces permanentes de 433 hommes. 800 autres militaires tricolores devraient suivre dans les semaines à venir. La période d'instabilité sociopolitique qui s'est installée après le renversement du gouvernement en mars 2013 est la raison de ce déploiement. Mais la précarité de la situation politique dans le pays ne date pas d'hier. Depuis son indépendance en 1960, l'histoire de la Centrafrique s'écrit entre rébellion et putsch. En mars, la SELECA, un rassemblement de forces armées venues du Nord, a investi la capitale sans trouver de grande résistance. Le régime dirigé par François Bozizé, lui-même issu d'un coup d'État, a été éjecté. Le chef de la SELECA, Michel Djotodia, a été nommé président par intérim. En signe d'apaisement, il avait mis en place un gouvernement d'union nationale en essayant d'inclure des ministres de divers horizons ethniques et culturels.
Tout se passe bien alors ?
Depuis, la situation s'est à nouveau envenimée. La SELECA s'est retrouvée désœuvrée, errant dans la campagne centrafricaine. Cette force est composée aussi bien de nomades issus de la minorité musulmane que de mercenaires tchadiens et somaliens qui s'étaient regroupés pour prendre la capitale. Une fois cette mission accomplie, ces groupes de miliciens se sont mis à écumer le pays, saccageant et pillant des villages et se rendant coupables de nombreux viols et meurtres aveugles. Pour que le président Michel Djotodia ait prononcé la dissolution de la SELECA, ses anciens soldats, estimés au nombre de 25 000, sont incontrôlables et les forces de l'ordre se montrent totalement inactives face au carnage. En réponse, la majorité paysanne et chrétienne a elle-même constitué des milices pour se défendre, les milices anti-Balaka.
Ce conflit ethnique n'est pas nouveau en Centrafrique.
C'est vrai, mais il a pris des proportions considérables. On observe un cycle de violence où chaque communauté considère les rivaux comme les agresseurs. Par souci de vengeance et d'intimidation, les divers groupes armés n'hésitent pas à s'attaquer à des femmes, hommes de l'autre ethnie, sans se soucier de savoir s'ils ont participé ou non aux escarmouches.
Qu'est-ce qui pousse la France à intervenir aujourd'hui ?
Outre l'ampleur inédite des conflits, c'est aussi les conditions humanitaires déplorables qui contraignent la communauté internationale à se tourner vers l'Afrique. Les civils non-belligérants se retirent dans des églises pour échapper aux massacres, ou bien sont obligés de quitter leur région. D'après le bureau onusien de la coordination des affaires humanitaires, plus de 400 000 Centrafricains ont dû se déplacer à l'intérieur du pays, et 68 000 se sont réfugiés dans les pays voisins, essentiellement en République démocratique du Congo. Les combats posent également de nombreux problèmes d'approvisionnement et empêchent la plupart des ONG d'apporter de l'aide sur place. L'insécurité alimentaire touche 1,1 million de personnes, soit le quart de la population du pays. Une Centrafrique complètement désorganisée pourrait également servir de refuge pour tous les terroristes en mal de logement depuis la guerre au Mali. Sous l'impulsion de François Hollande et du vice-secrétaire général de l'ONU, Jan Eliasson, les Nations Unies ont adopté une résolution visant à légitimer une intervention armée en Centrafrique.
Est-ce qu'on ne peut pas percevoir dans l'opération française des relents de colonialisme ?
Après l'opération Serval au Mali, ce sont évidemment des critiques faites par beaucoup de pays étrangers, mais tous s'accordent néanmoins sur l'importance des gendarmes indépendants dans la région. De ce point de vue, on peut regretter l'absence de coopération européenne sur le sujet, ainsi que la lenteur des processus des Nations Unies. Des forces africaines sont également sur place. Des militaires congolais et tchadiens composent notamment la MISCA, la Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique. L'ONU vise à transformer cette MISCA en OMP, Opération de Maintien de la Paix, et éventuellement à l'étoffer de casques bleus. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, a affirmé que les soldats français seront sur place pendant 6 mois. Cependant, ce devait aussi être la durée de l'opération Serval. Le réel problème, c'est qu'après de maintes réflexions et hésitations de la communauté internationale, la décision d'ingérence se fait dans l'urgence et sans objectif clair. Il faut rapidement définir un plan d'action pour avoir une réelle estimation des moyens à engager et du temps nécessaire à la régulation de l'espace centrafricain, éventuellement assisté sur le long terme par des forces panafricaines et onusiennes.
Il faut donc vite se décider. Merci Quentin, on te retrouvera mardi prochain pour une nouvelle chronique géopolitique. Et tout de suite, on remet la tête sous l'eau dans notre sous-marin avec l'interview d'Élodie Merlin, salariée de la Ligue de l'Enseignement qui fait partie du dispositif Culture Justice des Pays de la Loire. C'est la Ligue de l'Enseignement qui met en place la programmation culturelle de la Maison d'arrêt d'Angers en lien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Maine-et-Loire. Élodie Merlin était au téléphone avec nous cet après-midi, on l'écoute. Élodie Merlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la Ligue de l'Enseignement à la Maison d'arrêt d'Angers, qui est chargée de faire entrer la culture, l'expression à la Maison d'arrêt. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le principe ?
D'abord, la Ligue de l'Enseignement, elle a beaucoup d'autres missions, dont celle de développement culturel en milieu pénitentiaire. Donc en fait, c'est suite à des protocoles d'accord qui ont été signés entre le ministère de la Justice et le ministère de la Culture, qui ont souhaité, dans les années 80, mettre en place une programmation culturelle dans une logique de réinsertion pour les personnes placées sous main de justice. Donc moi, je suis employée en fait, je suis en remplacement, hein, sur Angers, c'est pas moi qui gère la programmation culturelle de la maison d'arrêt. Donc le but de la mission, c'est de décliner la programmation culturelle de la ville d'Angers au sein de la prison. Donc c'est-à-dire que quand il y a un festival ou un événement culturel, c'est essayer de proposer aux partenaires, qui sont nombreux d'ailleurs, à monter une action équivalente dans la maison d'arrêt. Donc
c'est le cas pendant les accroche-cœurs, par exemple.
Oui, par exemple, les accroche-cœurs ont mené des actions avec nous.
Temporive, il y a eu le concert des Barbarins Fourchus, il me semble, aussi à la maison d'arrêt.
Oui, ça c'était cet été.
En quoi c'est important que la maison d'arrêt vive ces événements en même temps que la ville d'Angers ?
Parce qu'en fait, ça rentre dans une logique de réinsertion, comme je l'ai dit. Quand on propose quelque chose au public carcéral d'équivalent à l'extérieur, ça fait le lien en fait dedans-dehors, comme on l'appelle, et qui est un lien indispensable à la réinsertion.
C'est facile de mettre en place ce genre d'initiative à l'intérieur de la maison d'arrêt ? J'imagine que c'est installé maintenant ?
Oui, c'est facile. En fait, c'est comme déjà la mise en place d'un projet à l'extérieur, c'est déjà il y a plein de choses à faire, et en maison d'arrêt, c'est vrai qu'il faut anticiper beaucoup plus à l'avance, c'est-à-dire que pour faire les autorisations, etc. Il faut prévoir, il faut plus de temps, et il faut respecter tout simplement le règlement des établissements pénitentiaires.
Alors il y a d'autres activités qui sont mises en place par la Ligue de l'enseignement, hormis évidemment ces déclinaisons à l'intérieur de la maison d'arrêt. Il y a des ateliers également, des ateliers hebdomadaires.
Oui, alors souvent c'est sous forme de stage, d'ateliers d'écriture, par exemple avec le slameur Vincent Loiseau. On essaie de mettre en place là pour 2014 des ateliers hebdomadaires, par exemple le yoga, les jeux de société avec la ludothèque Lue d'Anjou.
Et vous travaillez aussi avec le CNDC ?
Oui, le Centre National de Danse Contemporaine, on fait des projets avec nous. Ouais.
Quel bénéfice ça a pour les détenus, ces moyens d'expression qui sont mis en place par le biais de ces ateliers ?
Comme vous l'avez dit, c'est l'expression, c'est pouvoir s'essayer à des pratiques artistiques et culturelles variées, pouvoir rencontrer des professionnels de la culture, des artistes, échanger avec eux. Donc nous, on n'est pas simplement dans la diffusion comme par exemple juste un concert, mais ce qu'on essaye aussi de faire, c'est des parcours culturels avec un concert, la rencontre avec les intervenants, des ateliers.
C'est ouvert à tous ?
Oui, c'est envoyé à toute la population pénale et après, c'est vrai qu'en fonction des emplois du temps, ils voient s'ils sont disponibles ou non.
Est-ce qu'il y a aussi des ateliers de cette manière-là, des activités qui sont faites sur le plan sportif ?
Du coup, c'est pas moi qui gère ça, mais oui, nous avons des personnes qui font des cours de sport à la maison d'arrêt toute la semaine.
Le prochain événement décliné au sein de la maison d'arrêt ?
Alors, ça sera la folle journée. C'est la folle journée, c'est un événement de Nantes qui a lieu également à Angers. Donc ça sera tout un parcours sur la musique classique américaine.
Pendant combien de temps ?
Pendant une semaine avec pendant la semaine des ateliers et des rencontres normalement une permission de sortir avec quelques détenus à un concert qui aurait lieu dans la région.
Merci beaucoup Élodie Merlin d'avoir accepté l'interview téléphonique.
De rien.
Vous entendiez Élodie Merlin, salariée de la Ligue de l'enseignement qui met en place la programmation culturelle de la maison d'arrêt d'Angers. Tout de suite un petit peu de musique. Akshin Alizadeh, Saw the Man. un peu notre Jean-Michel Apathy, notre Jean-Pierre Elkabbach, notre Thomas Legrand à nous. C'est notre chroniqueur politique incontournable. C'est Pierre-Antoine et c'est maintenant. Le 3 décembre 1983, 100 000 personnes défilaient pour la Marche des Beurs. Samedi dernier, en 2013, alors que les insultes et les actes de racisme se font à découvert, ils étaient des milliers à manifester à Paris et dans toutes les grandes villes de France pour dénoncer la montée d'un racisme banal.
Marchons contre le racisme avant qu'il ne nous marche dessus. Ils étaient 25 000 à Paris, 1700 à Nantes, 1100 à Bordeaux ou encore 600 à Toulouse, Lille et Marseille. Près de 30 000 personnes sur toute la France pour défendre Christiane Taubira et les autres, ces inconnus qui souffrent chaque jour de cette montée de la haine de l'autre.
L'antiracisme se réveille-t-il enfin ?
Attendez un peu, hein. 30 000 personnes sur 65 millions de Français, ça fait 0,05% de la population. Au printemps dernier, ils étaient 1 million à défiler contre le mariage pour tous. Mais bon, hein, chacun ses priorités. L'un des co-organisateurs, Stevie Gustave, est élu antillais de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne. À l'origine de la pétition France ressaisis-toi qui a réuni 120 000 signatures, se dit lui-même déçu de la faible mobilisation. Comme quoi il est souvent plus simple de signer une pétition en ligne que de descendre dans la rue pour ses idées. Mais cette marche, même si elle n'a pas réussi à mobiliser comme ses organisateurs auraient voulu, a du bon. Elle aura au moins réussi à rassembler, le temps d'une matinée, les collectifs de son papier, les principales organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGT ou encore Solidaire, les organisations antiracisme, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA, SOS Racisme ou le MRAP, ainsi que quelques partis politiques, PS et Front de Gauche. Libération assure même avoir vu dans ce cortège quelques francs-maçons, c'était beau à voir, moi qui étais tranquille dans mon salon devant la télé. Ceux qui ont eu le courage de se mobiliser, malgré le froid et la pluie battante parfois, comme à Toulouse, ont su s'opposer à la discrimination qui ne touche pas que les élus. Alain Jakubovic, président de la LICRA, était au micro de France Info.
Traiter un noir de singe et lui jeter des bananes, ça n'est pas réservé aux ministres. Malheureusement, nous le voyons, nous qui travaillons beaucoup à la LICRA dans le domaine du sport, tous les dimanches sur les terrains de sport de France et de Navarre, ou en tout cas trop souvent, professionnels et amateurs, ce sont des faits qui se produisent et il a fallu l'électrochoc de ces injures à l'encontre de la ministre de la Justice pour qu'on feigne de s'en rendre compte. Mais malheureusement, cela fait des mois et des mois que cela se produit dans notre pays. Malheureusement, le personnel politique de droite et de gauche a un peu abdiqué des valeurs de la République. C'est de rappeler effectivement ce qu'est la France. Et la France, ce n'est pas de traiter des êtres humains de cette façon, de les comparer à un singe. Ça, ce n'est pas la France. Et c'est la raison pour laquelle tous les Français devraient être dans la rue aujourd'hui.
Les dirigeants des différentes associations se sont tour à tour exprimés. CGT et CFDT ont même mis leur petite querelle de côté pour marcher main dans la main, rassemblés autour de valeurs allant plus loin que les guéguerres politiciennes. Pour Laurent Berger de la CFDT, quand les anges se lâchent en disant des choses horribles, ben, il faut dire stop. Idée proche de celle que Pierre Tartakovsky, le président de la Ligue des droits de l'homme, se veut rassembleur. Malgré nos différences, nos histoires diverses, nous avons su nous rassembler et nous espérons une grande mobilisation citoyenne. De même, le cofondateur de SOS Racisme, Harlem Désir, sans doute plus sur le devant de la scène suite à sa nomination au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, pense que cette manifestation est un moyen pour faire bouger les lignes. Appréciant sûrement les caméras, le voici qui s'exprime pour l'AFP.
Il y a 30 ans déjà, des jeunes marchaient pour l'égalité. Ils marchaient pour faire reconnaître les droits de l'enfant de l'immigration à être des citoyens à part entière. Eh bien, il faut continuer à marcher. Le combat pour l'égalité, on n'en a jamais fini avec lui.
Des intentions louables, en somme.
Certes, mais les actions du PS sont critiquées. Julien Drec, autre cofondateur de SOS Racisme et dirigeant du PS, estime, dans un long entretien pour Le Monde de dimanche dernier, que le PS n'est pas à la pointe du combat contre les discriminations. Le PS n'est pas le seul à en prendre pour sa pomme. Les associations anti-racisme n'ont pas beaucoup plus de grâce à ses yeux. Elles sont en résistance et trop dans un discours traditionnel. Bombarder les rédactions de communiqués, ce n'est pas être à l'offensive. Les critiques tombent aussi de la droite. Pour Jean-François Copé, président de l'UMP, le racisme n'est qu'un écran de fumée du PS. Les Français ne sont pas racistes, affirme le patron. Le véritable sujet de préoccupation des Français, c'est l'insécurité, le chômage et les impôts. Un avis qui tranche avec les déclarations que Copé a pu faire par le passé. On se souvient tous du racisme anti-blanc et de ces fameux pains au chocolat. Pourtant, de cette manifestation, il faut retenir l'envie de progrès et la mobilisation. Non, monsieur Copé, les Français ne sont pas racistes, mais ce sujet les préoccupe tout de même. Comment expliquer sinon les mobilisations, les pétitions ou encore les réactions après la une, deux minutes, après les propos d'une fillette de 10 ans à Angers et après les écrits de certains de vos élus? Alors Jean-François, pourquoi ne pas rejoindre tout ce beau monde pour la manifestation de la semaine prochaine? Je suis sûr que vous y avez, vous aussi, une petite place.
Jean-François Copé, aux côtés des syndicats du PS et du Front de Gauche, j'émets comme un doute, gratuit, mais un doute quand même. Merci Pierre-Antoine. On termine avec les plans de sortie pour ce soir et demain. Ça commence au 4-5 août à 20h15 avec le film Cabaret sorti en 72. C'est une projection présentée par Claire Rousier, directrice adjointe du Centre National de Danse Contemporaine dans le cadre de la saison danse du CNDC. À 20h30 à la chapelle du conservatoire, l'orchestre symphonique et les élèves solistes du conservatoire présentent un programme sur les compositeurs viennois. Autre ambiance au Térock à 21h avec un bœuf blues. Notez aussi que demain soir à l'espace culturel Saint-Serge sera projeté le film éthiopien Tesa, en partenariat avec Cinéma d'Afrique. Ce sera à 19h30 et ce sera gratuit. Et puis toujours demain soir au Shabada à 20h45, un on-stage spécial Cercler, gratuit pour ceux qui ont la bonne idée d'avoir la carte Shabada, 5€ pour les autres. Voilà. Il est l'heure pour nous de lâcher l'immersion. Aux manettes ce soir, c'était David et derrière les micros, Nanette, Quentin et Pierre-Antoine. Vous pouvez nous réécouter demain à 13h ou en podcast sur notre site internet www.radiocampusangers.com. Tout de suite, vous retrouvez Micro-Ondes, l'émission scientifique de la radio, puis The Johnny Clash Show, un moment de radio intense. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. Vous allez entendre un extrait de l'émission Turbulence de jeudi dernier. Marion et Robin recevaient Scarlett qui participera jeudi au concert caritatif Rock for Kaloum au Shabada. Ils en parlent justement. On vous quitte vraiment maintenant. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. On se retrouve jeudi à 19h. Allez, bisous.
Vous serez en concert donc au Shabada le 5 décembre pour Rock for Kaloum. Un concert caritatif avec les groupes angevins dont Zenzile, Daria, Wang for Peace. Expliquez-nous le but de ce concert et pour quelle cause vous faites ça.
Bah c'est Daria qui a l'initiative de cette soirée. Donc eux, ils ont tourné, ils ont fait une tournée en mars 2013 aux États-Unis où ils ont rencontré leur producteur, la personne qui leur trouve les dates là-bas, qui les produit quand ils jouent là-bas, un petit gamin qui est atteint d'une maladie grave. Donc son prénom c'est Callum, donc c'est pour ça que la soirée s'appelle Rock for Callum. Et donc en fait, ils ont été assez touchés de sa maladie parce qu'il est handicapé, il peut pas bouger alors que c'est un gamin très intelligent. Et aux États-Unis, bah, comme on le sait, c'est vachement dur en fait de se faire soigner. Il n'y a pas notre système de sécurité sociale. Et donc en fait, ils ont eu envie d'organiser une soirée pour lui envoyer de l'argent, pour l'aider, parce que donc son père leur a filé un bon coup de main quand eux ils sont allés. Donc c'était la moindre des choses. Ils se sont dit que c'était la moindre des choses d'essayer de faire un geste pour le petit gamin. Et c'était aussi et peut-être même autant l'occasion de se faire une bonne soirée avec un plateau en juin, entre potes en juin, ouais, on va dire. Du coup, au Shabada, chez nous, voilà, c'était une bonne occasion.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.